It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits, ravi de vous retrouver. Nous partons en Asie et plus précisément en Afghanistan. Vous avez suivi les événements de cet été. Nous avons publié plusieurs articles sur le site internet de Conflits consacré à l'Afghanistan, notamment deux articles réalisés par les professeurs Hervé Théry et Daniel Dory, qui sont deux géographes qui ont réalisé une série de cartes dont je vous recommande vivement la lecture, des cartes qui permettent de comprendre à la fois les conflits ethniques qu'il y a en Afghanistan, les oppositions entre les différents peuples, ainsi que les différents attentats terroristes qui ont eu notamment la distinction entre les attentats de Daesh et ceux des talibans. Des cartes qui vous permettront, je l'espère, de mieux comprendre comment fonctionne ce conflit. Tous ces articles sont sur notre site internet revueconflit.com en accès libre. Et puis je mentionne également la parution de notre nouveau numéro dont le dossier est consacré au cyber, guerre et paix dans le cyber, que vous pouvez retrouver en kiosque et que vous pouvez également acheter via notre site internet puisque nous avons une boutique dans laquelle vous pouvez acheter les numéros papier. Et puis en cette rentrée, vous pouvez également vous abonner à Conflits, vous abonner est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer à vous proposer ces différents contenus sur l'ensemble de nos supports. Je reçois cette semaine Côme Carpentier de Gourdon. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous vivez entre la France et l'Inde, un pays dans lequel vous habitez depuis plusieurs décennies. Vous êtes notamment le directeur de la publication de la revue World Affairs, qui est l'une des principales revues de relations internationales en Inde. Et puis vous êtes également conseiller pour la India Foundation, qui est l'une des grandes fondations indiennes qui travaille aussi sur ces questions de relations internationales. Et je suis ravi de vous avoir aujourd'hui au micro de Conflits pour évoquer les relations entre l'Inde et l'Afghanistan, parce que dans la crise afghane, on a beaucoup évoqué le Pakistan, bien évidemment, ils sont voisins, et puis les liens sont forts. On a évoqué la Russie, on a évoqué la Chine, et en revanche, on n'évoque pas l'Inde. Or, il y a des enjeux indiens qui sont évidemment importants, vous allez nous expliquer ce matin. Notamment, on a l'impression que l'Inde, c'est un peu le géant discret, ils ont 1 milliard d'habitants, c'est un sous-continent, et pour autant, ils ne sont pas, me semble-t-il, intervenus de façon officielle dans la crise afghane. Quelle est la position du gouvernement afghan sur ce qui est en train de se passer à Kaboul ?
La position du gouvernement indien, vous voulez dire ?
Du gouvernement indien, pardon.
Merci d'abord, et je tiens à préciser que, ayant suivi la politique indienne vis-à-vis de l'Afghanistan et envers l'Afghanistan, il faut souligner que l'Inde a été très présente en Afghanistan, évidemment tout au long de l'histoire, et pour cause, puisque la plupart des invasions venues d'Asie centrale qui ont en quelque sorte inondé l'Inde sont passées par l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan est un peu une source de troubles pour l'Inde depuis des siècles. Mais dès la chute du gouvernement des talibans en 2001, et l'Inde avait eu de mailles à partir avec ces talibans, puisqu'il y avait eu un conflit plus ou moins indirect au Cachemire, où certains guerriers afghans avaient été infiltrés par l'armée pakistanaise, par les services secrets pakistanais, pour combattre justement la présence indienne. Dès que les talibans sont tombés, suite à l'invasion américaine, l'Inde a établi de fortes relations avec le gouvernement créé sous protection américaine. Et cette relation s'est beaucoup renforcée au cours des 20 dernières années. L'Inde a investi plus de 3 milliards en valeur dollars dans les infrastructures afghanes. Elle n'a pas directement participé au conflit, intérieur afghan, mais elle a voulu apporter un soutien massif à la construction d'un nouvel État afghan modéré et considéré d'une part pro-occidental, et pour cause, mais aussi très pro-indien. Et traditionnellement, l'Inde a été une terre de refuge et d'accueil pour les Afghans. Il y en a plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers, qui vivent en Inde depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire essentiellement depuis la première révolution afghane et l'invasion soviétique. C'est pour dire que l'Inde a été évidemment très traumatisée, en tout cas au niveau politique, par la chute du gouvernement d'Ashraf Ghani et la débâcle américaine, qui a évidemment laissé le champ libre aux talibans, qui sont considérés comme plutôt hostiles à l'Inde, dans la mesure où ils considèrent que l'Inde est un État non musulman, en conflit avec le Pakistan, et qui leur était opposé.
Il y a eu récemment une déclaration d'un des porte-parole talibans qui a dit que le nouvel Afghanistan voulait venir en aide aux musulmans du Cachemire, ce qui pourrait là aussi susciter quelques troubles entre l'Inde et le Pakistan.
C'est ce que l'Inde craignait depuis toujours, en fait. C'est une des raisons majeures du soutien que l'Inde a apporté aux gouvernements successifs afghans, parce qu'elle voulait à tout prix éviter une reprise de pouvoir par les talibans et leurs alliés, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a une espèce de nébuleuse islamique qui regroupe, divers mouvements radicaux islamistes, et peut-être même, indirectement, l'État islamique. Alors l'État islamique et les talibans sont en conflit, en principe, mais il y a tout de même des passerelles entre eux, et les talibans sont loin d'être un groupe homogène. Il y a des talibans vraiment extrémistes, et il y a des talibans modérés, embourgeoisés, probablement gagnés à la cause de la pacification par les États-Unis, par les Russes, par les Chinois. Et ces talibans-là voudraient bien pouvoir jouir des fruits de leur victoire et gérer l'Afghanistan d'une manière assez pacifique, évidemment en tant qu'État islamique, mais un peu à la manière du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire des États qui peuvent parfaitement s'entendre avec l'Occident et qui en fait sont de grands alliés de l'Occident. Je ne dis pas que ces talibans veuillent devenir des alliés de l'Occident, mais ils voudraient bien établir une coexistence pacifique avec leurs principaux voisins et avec certaines puissances occidentales.
Donc on peut supposer qu'il y aura des tensions, d'ailleurs comme dans tout type de gouvernement, entre ces différentes lignes, une ligne plus conciliatrice et une ligne plus radicale.
Assurément. Et d'ailleurs, c'est tout le problème qui se pose pour la formation d'un nouveau gouvernement afghan. Parce que, à partir du moment où on crée un gouvernement, on doit inclure des éléments ne vont pas nécessairement travailler ensemble. Et si on exclut certains autres éléments, on en fait des ennemis. On a bien vu que le Mullah Baradar, qui est un peu le chef de file des talibans, ancien prisonnier à Guantanamo et au Pakistan, il a évidemment pris son temps en disant d'abord qu'il fallait que toutes les puissances étrangères évacuent le pays, ce qui est maintenant fait, mais il voulait également reconquérir les parties de l'Afghanistan qui lui échappent, en particulier la vallée du Panjshir, qui en principe résiste toujours sous la direction du fils de Massoud et de l'ex-vice-président, enfin il est toujours vice-président en principe puisqu'il n'y a pas de nouveau gouvernement reconnu, Saleh, qui est aussi un Tadjik et qui évidemment est foncièrement opposé aux talibans. D'ailleurs, au cours des derniers jours, les talibans ont bombardé avec des drones la vallée du Panjshir et il est clair qu'ils veulent écraser cette insurrection naissante. Et d'ailleurs, il est assez clair que l'armée pakistanaise les appuie, parce que l'armée pakistanaise voudrait voir s'instaurer un gouvernement taliban stable sous son égide.
Est-ce que l'Inde pourrait venir aider les gens du Panjshir, justement, pour éviter cette conquête ?
C'est un débat intense au sein du gouvernement indien, parce que il y a évidemment une faction en particulier militaire en Inde qui voudrait venir au secours de cette insurrection pour empêcher la talibanisation de perdurer, de s'installer. Mais il y a aussi ceux, les réalistes, qui disent qu'il n'est pas prévisible que cette insurrection naissante, qui est confinée en principe à certaines régions non pashtounes, donc non majoritaires, il est très difficile de prévoir que cette insurrection réussissent à renverser le régime taliban. Donc, si on se fait des ennemis des talibans en aidant leurs ennemis, on peut évidemment encourager et en quelque sorte soutenir si on peut dire, leurs adversaires dans une guerre civile qui peut s'éterniser, mais on s'assure alors de l'hostilité des talibans qui ne manqueront pas d'écouter le Pakistan quand celui-ci leur demandera d'intervenir au Cachemire en tant que guérilla, disons, plus ou moins clandestine.
Ces gens du Panjshir, ce sont des gens qui ont pensé qu'ils peuvent être valables sur le plan militaire, ils ont une crédibilité. Parce que c'est un petit peu la grande figure de l'Occident. Le fils du commandant Massoud a été reçu par Nidalgo. Il y a une rue dédiée au nom du commandant Massoud. Alors, il y a le côté, on va dire, un peu paillette, romantique,
oui. Romanesque.
Romanesque. Mais derrière ça, est-ce qu'ils ont des bases solides?
C'est difficile à dire. D'abord, ils ont l'avantage d'avoir des frontières avec des pays étrangers. Donc, ils pourraient bénéficier d'un soutien à travers le Tadjikistan, par exemple, qui, évidemment, là, ils ont un peu leurs frères d'armes, puisque ce sont des Tadjiks de part et d'autre. Par ailleurs, ils sont très minoritaires. Ils sont dans une région montagneuse, pauvre, donc ils peuvent résister, mais il n'est pas sûr qu'ils puissent sortir de leur enclave. Et un autre facteur à considérer, c'est qu'ils ne sont pas loin de la Chine non plus, qui communique avec l'Afghanistan par le couloir de Wakhan. Or, la Chine voudrait établir des relations fructueuses avec les talibans, dans la mesure où les talibans permettent de faire des affaires et acceptent l'idée du grand couloir eurasiatique, One Belt, One Road, qui permettrait à l'Afghanistan de prospérer, mais qui donnerait également à la Chine un accès additionnel à l'océan Indien, à la mer Arabe, à la mer d'Arabie, comme on dit, et puis au Golfe Persique. Donc, en quelque sorte, la Chine pourrait ne pas dépendre exclusivement du Pakistan au cas où le Pakistan tournerait mal. Ils auraient également un couloir par l'Afghanistan vers l'Iran. Donc, tous ces facteurs entrent en jeu. Et sans soutien massif extérieur, il est clair que les gens du Panjshir ne pourront pas réussir, même s'ils bénéficient d'un soutien actif de la part des services britanniques. Parce que nous savons bien que Massoud était très proche des Anglais, en particulier. Et les Anglais ont conservé des réseaux en Afghanistan, comme les Américains d'ailleurs, qui avaient des armées parallèles. On peut parler d'escadron de la mort, qui était chargé de massacrer les talibans, là où ils les trouvaient. En tout cas, tous ceux qui s'opposaient au gouvernement, au protectorat américain. Donc, on ne sait pas ce qu'il est advenu de ces forces parallèles paramilitaires. Je pense que certaines ont dû rejoindre les talibans, d'autres probablement vont se faire exterminer, et ceux qui n'ont pas pu sortir, évidemment, seront dans des conditions extrêmement difficiles. Alors si ces forces se joignaient au Panjshiri, et si l'Angleterre et les États-Unis trouvaient intérêt à les soutenir clandestinement, alors effectivement, on pourrait voir le Panjshir prendre une importance accrue et éterniser un conflit. Même s'il n'arrive pas à régler la situation, il pourrait tout du moins prolonger ce conflit qui dure déjà, il faut bien le reconnaître, depuis un demi-siècle.
Donc finalement, à vous écouter, j'ai l'impression que tous les voisins se satisfont de l'arrivée au pouvoir des talibans et que peu ou prou, ils y trouvent un intérêt. Au moins, le réalisme l'emporte, et que ce soit le Pakistan, l'Inde ou la Chine, se disent que finalement on peut traiter avec eux.
Je ne dirais pas que c'est le cas de l'Inde. Les autres grands voisins, la Russie, la Chine, l'Iran, ont pris leur parti, fait contre mauvaise fortune bon cœur. L'Inde, en revanche, est très partagée et très soucieuse, parce qu'elle estime que l'Afghanistan et le Pakistan réunis peuvent constituer, ils le sont déjà, mais enfin, le foyer de conflit que cette zone représente, que les Américains appellent l'AFPAC, pourrait devenir encore un brasier encore plus présent et enflammé. Et ceci, effectivement, aurait de très négatives répercussions sur l'avenir de l'Inde.
Qu'est-ce qui explique que les talibans ont gagné aussi vite? Parce que on insiste souvent beaucoup sur leur islamisme assez grégaire, et notamment le sort qui est réservé aux femmes, qui est quelque chose qui choque beaucoup en Occident. Mais ça paraît un peu paradoxal de se dire que si ces personnes-là sont aussi arriéré et aussi peu attentif aux droits de l'ensemble de la population? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de révolte? Pourquoi est-ce que les principaux chefs de ville les ont laissés rentrer aussi facilement? Est-ce que c'est uniquement par détestation des États-Unis en disant que la cause nationale l'emporte? Ou est-ce qu'il y a aussi une adhésion massive de la population à l'idéologie des talibans?
Je dois vous dire qu'en 2001, quelques jours après l'annonce américaine concernant l'attaque de l'Afghanistan, l'invasion de l'Afghanistan, j'avais écrit un article prévoyant que les talibans reviendraient. Je ne pensais pas que ça durerait 20 ans. Mais j'avais dit que, comme d'habitude, les États-Unis perdraient cette guerre, qu'ils n'arriveraient pas à s'implanter, que toutes leurs initiatives se solderaient par des échecs. Enfin, les États-Unis sont des spécialistes en l'art de perdre. Et ils perdent très mal, mais ils perdent. Et ceci tient à de multiples facteurs, en particulier la corruption extraordinaire au sein du complexe militaro-industriel. En fait, ces guerres américaines ne sont pas faites pour être gagnées, elles sont faites pour enrichir les grandes compagnies qui fournissent les armements. Et à partir du moment où on recycle l'argent des contribuables, 2000 milliards pour l'Afghanistan au moins, on sait que cet argent va essentiellement dans les caisses de tous les intermédiaires et de tous les guerriers sur fauteuil qui décident des conflits à Washington et ailleurs. Ceci dit, les talibans ont une base populaire très forte dans la population rurale pachtoune. Parce que il faut bien reconnaître que pour un pachtoun, un paysan pachtoun, les valeurs occidentales n'ont aucun sens dans l'ensemble. Ce sont des femmes urbaines essentiellement qui peuvent tenir à leurs droits et vouloir bénéficier de l'éducation qu'elles ont pu recevoir. Mais pour l'ensemble de la population afghane, les talibans, en fait, c'est eux. J'avais toujours dit ça, d'ailleurs je ne suis pas le seul, hein, tous ces écrits ont été confirmés par bien d'autres observateurs. Pour la famille afghane, chaque famille afghane a un taliban, si l'on peut dire, parmi les siens. Donc cette idée qu'on combat les talibans qui seraient des espèces de production de l'étranger est tout à fait fausse. C'est en quelque sorte une manifestation du peuple afghan, comme l'étaient les moudjahidines du temps des soviétiques. On ne peut pas séparer les talibans des afghans, en tout cas des afghans de la campagne et des petites villes. C'est pourquoi il y a effectivement un très fort soutien, parce que le Pashtun Wali, le code afghan traditionnel, et la charia sont reconnus par la plupart des afghans comme les seuls points de référence. Évidemment, pour eux, l'idée que les femmes doivent être l'égale des hommes, qu'elles ne doivent pas être voilées, qu'elles doivent travailler, c'est quelque chose de tout à fait, je ne dirais pas irrecevable, mais c'est quelque chose qui est absurde dans la mesure où leurs priorités sont autres. Les gens veulent pouvoir manger, ils veulent pouvoir acquérir des biens de consommation, et ils veulent surtout défendre leurs valeurs traditionnelles et leur culture. Et chacun sait que dans les sociétés traditionnelles, musulmanes en particulier, l'éducation des femmes au-delà d'un certain point représente une menace pour l'ordre établi. C'est pourquoi il y a en fait très peu de sympathie pour les idéaux américains qui, par ailleurs, ont été aussi véhiculés à travers des institutions reconnues comme corrompues. C'est-à-dire que le gouvernement que les Américains avaient établi en Afghanistan était un véritable, un égout, si l'on peut dire, en matière de corruption, trafic de drogue, enrichissement illégal, et aussi abus et violences faites aux populations par l'armée afghane, qui était en fait, dans sa majorité, un ramassis de hors-la-loi, qui n'était même pas payé correctement. Donc évidemment, ils se sont littéralement rendus avant même de commencer le combat. Les officiers ont fait leurs affaires, ils ont en quelque sorte vendu leurs services en échange de la grâce qu'on leur accordait. Et puis, pour ceux qui ne voulaient pas se rendre, évidemment, ils sont partis et ils se sont fondus dans la population, comme ils le faisaient d'ailleurs du temps de la présence américaine. Parce qu'il faut bien reconnaître que, si on peut dire, le motif de du pauvre entraînement qu'a reçu l'armée afghane dans son ensemble venait du fait que les Américains avaient très peur que les armes qu'on donnait à ces soldats afghans ne se retournassent contre eux. Autrement dit, c'était comme on disait « green on blue », vous savez, les verts, les musulmans qui tirent sur les Américains. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Comment voulez-vous entraîner des gens et les armer quand vous savez qu'ils peuvent d'un jour à l'autre vous abattre? Et c'est pourquoi les Américains jouaient un jeu qui n'était pas du tout, jouable. Donc, ils se sont bien rendus compte, il y a des années, qu'il n'y avait qu'une issue, c'était de partir. C'était une décision délicate et douloureuse, personne ne voulait la prendre. Trump a commencé, et Biden en porte la responsabilité désormais.
Sur cette question de la drogue, justement, l'Afghanistan est le principal producteur de pavots au monde qui sert ensuite à fabriquer de l'héroïne. Est-ce que les talibans vont combattre ce genre de choses, ou est-ce que c'est une ressource financière, et donc ils vont participer à la production de cette drogue?
Vous savez, le premier gouvernement taliban avait plus ou moins éradiqué la culture du pavot en Afghanistan.
Après 96-2001 à peu près.
Voilà, c'est ça. Ils avaient imposé des mesures rigoureuses contre les cultivateurs et les trafiquants de drogue parce que par définition c'était un islamique. Maintenant, nous ne savons pas encore quelle sera leur attitude parce que en particulier dans la région de Helmand, qui est on peut dire une forteresse des talibans, la culture du pavot a fait des bonds depuis l'invasion occidentale. Et il y a maintenant, évidemment, une industrie plus florissante que jamais qui est en partie soutenait l'effort des talibans, mais également venait dans les caisses du gouvernement afghan. Donc il y avait une espèce de partage des bénéfices. Et dans la mesure où les Américains continueront d'imposer des sanctions et que l'Afghanistan ne pourra pas commercer librement, n'oublions pas que c'est un pays qui est plus ou moins maintenant fermé, n'est-ce pas? On ne peut entrer que par et sortir que par le passage de Torkham vers le Pakistan. Donc, il est probable que la drogue constitue une ressource quasiment irremplaçable. Mais là aussi, il va y avoir quand même une question théologique, parce que dans la mesure où les talibans veulent imposer un gouvernement islamique, ils ne pourront pas facilement justifier du narcotrafic. Et il faudra qu'ils décident d'être réalistes ou d'être justement idéologiquement vertueux. Et là, je pense qu'il peut y avoir aussi des conflits entre eux.
On n'a pas évoqué encore le cas de la Russie, qui est quand même l'autre acteur, grand acteur de la région. Quels sont l'état des relations diplomatiques entre l'Inde et la Russie? Est-ce qu'il y a une entente possible, notamment à l'égard d'un ennemi commun qui pourrait être la Chine?
Depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, on a assisté à une évolution de la politique indienne qui l'a éloigné progressivement de la Russie, en tout cas dans certains domaines, et qui l'a rapproché des États-Unis. Ce n'est pas Narendra Modi qui a inventé cette politique. Elle avait été déjà entreprise par les gouvernements précédents, en particulier par celui de Manmohan Singh, le premier ministre qui précéda Narendra Modi. Mais évidemment, la tendance idéologique du BJP, du parti au pouvoir, ses idées assez libérales en matière d'économie, tout cela rapprochait l'Inde de l'Occident et en particulier des États-Unis. Mais depuis 2-3 ans, on sent qu'il y a des couacs dans cette relation. Les États-Unis n'ont cessé de décevoir l'Inde sur les grands dossiers. Et depuis le départ de Donald Trump et l'arrivée au pouvoir de Biden à la tête d'un gouvernement américain ostensiblement libéral, « woke », comme disent les Américains, la politique indienne, en fait, est devenue beaucoup plus sceptique parce qu'on s'aperçoit que, vis-à-vis des États-Unis, parce qu'on voit bien que les États-Unis ne portent pas le gouvernement Narendra Modi en leur cœur et qu'ils estiment qu'au fond, c'est un pays dont on peut se servir, mais ce n'est pas un pays avec qui on partage des valeurs. C'est pourquoi, particulièrement la crise de l'Afghanistan, mais aussi les grands dossiers concernant l'Iran, la Chine, l'Asie du Sud-Est, ont rapproché l'Inde de la Russie. Au cours essentiellement de ces deux dernières années, c'est-à-dire depuis la réélection de Narendra Modi, on voit que l'Inde et la Russie trouvent de nombreux terrains d'entente. La Russie, d'ailleurs, avait averti l'Inde plusieurs fois qu'elle n'appréciait toujours pas, le projet d'une espèce de quad, comme on dit, de quadrangle de l'océan Indien et du Pacifique qui réunit déjà les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Cette alliance est manifestement anti-chinoise. Elle vise à enrayer l'expansion chinoise dans la région. Et la Russie, qui n'est pas une alliée de la Chine, mais qui est son partenaire, ne voit pas cela d'un bon œil. Donc, l'Inde a essayé de rassurer Moscou en disant « Nous sommes avec vous, mais nous devons aussi ménager nos intérêts. Nous ne pouvons pas compter sur la Chine pour nous épargner. Donc, nous devons trouver des alliés face à la Chine. » Et évidemment, la Russie n'est pas un allié contre la Chine. Mais on voit bien que, à partir du moment, par exemple, où les Américains sont partis et que les talibans sont arrivés au pouvoir, l'Inde a fait des appels du pied à la Russie pour justement trouver un soutien dans ses tentatives d'ouvrir un dialogue avec les talibans. Et d'ailleurs, ce dialogue a commencé au Qatar entre les représentants de l'Inde et les représentants des talibans. Donc la Russie, de ce point de vue-là, joue un rôle critique. Et je pense que la politique russe, la diplomatie russe, n'a pas d'égal en matière justement de connaissance des dossiers et aussi d'influence sur les acteurs régionaux. Donc je pense que la Russie et l'Inde retrouvent la force d'un partenariat qui a quand même duré maintenant depuis les années 70.
Dernière question, comme Carpentier de Gourdon, sur un autre sujet, la question plutôt de la puissance culturelle. Il y a eu les Jeux Olympiques cet été à Tokyo et les résultats de l'Inde sont assez surprenants. On avait à Conflit réalisé un numéro sur le sport où notamment calculer la puissance sportive des États. Et l'Inde n'était pas extrêmement bien classée. Là, dans le tableau des médailles, l'Inde a eu 7 médailles au total, dont une seule médaille d'or, quand les États-Unis en ont eu 113, la Chine 88 et la Grande-Bretagne 65. Ça n'intéresse pas du tout. Les Jeux Olympiques n'intéressent pas du tout les Indiens et le sport n'est pas pour eux un moyen de puissance culturelle. Ils ont d'autres visions.
Je pense qu'il y a aussi là un facteur culturel. On s'intéresse davantage, en tout cas dans certains milieux, au sport et aux Jeux Olympiques. Mais il faut bien dire que depuis plus d'un siècle, la passion de l'Inde en matière de sport, c'est le cricket. Même si le cricket n'est pas officiellement le sport national indien, c'est le cricket qui, en quelque sorte, réunit toutes les ressources qui appellent toute la couverture médiatique. Et tous les jeunes Indiens, riches ou pauvres, voudraient devenir des joueurs de cricket champions. Dans cette atmosphère quasiment obsessionnelle, il est difficile à d'autres sports de percer. Et il est clair que les facilités indiennes que le gouvernement et les entreprises privées apportent au sport ne sont pas suffisantes. Donc les athlètes indiens n'ont pas beaucoup d'opportunités pour percer. Et on a vu cela depuis l'indépendance de l'Inde dans sa contribution assez faible aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas si ça va changer. Je pense que ça pourrait changer, mais ça impliquerait une espèce d'investissement massif dans le domaine du sport. Et je pense que l'Inde a d'autres priorités pour l'instant.
Bien, merci beaucoup d'avoir évoqué pour Conflit ces relations entre l'Inde et l'Afghanistan, puis de manière générale la position de l'Afghanistan dans ces évolutions importantes 20 ans après l'attentat du 11 septembre 2001, évolution que nous allons continuer de suivre à Conflit. Vous pouvez retrouver de nombreuses autres émissions sur notre chaîne de podcast, près de 200 émissions sur l'ensemble des continents et des sujets extrêmement variés. Et puis vous pouvez également retrouver sur notre site internet la boutique Conflit pour acquérir le numéro actuel dont le dossier est consacré au cyber, ou bien les anciens numéros. L'ensemble des anciens numéros peuvent être acquis en format papier et en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.